Bienvenue à tous. Je suis ravi de vous voir tous ici. Bon, mon ami Sébastien va officier.
Bien. Bonjour. Merci à tous et bienvenue d'être venus ici nombreux pour célébrer donc Serge.
C'est pas célébrer Serge.
C'est quand même une célébration parce que c'est son anniversaire aujourd'hui.
C'est vrai.
Donc à l'occasion, c'est une belle fête hein, que de pour son anniversaire de venir célébrer la sortie de son livre. C'est quand même son troisième roman. C'est quand même une célébration. Et donc on vient ici pour parler du troisième roman de Serge, qui donc La part du requin, qui vient de sortir aux éditions Elitis. Le second, 2013, la rive sombre de l'Èbre, qui partait d'une quête, en fait, qui est une quête d'un père disparu dans l'Espagne franquise des années 60. Et son premier roman, sorti en 2011, Les îles du Santal, qui a finalement été donc le premier roman et la naissance de Serge Le Grandval au roman. Et qui a un lien, si je parle de...
Donc, je ne suis pas si vieux que ça, finalement, si je suis né qu'en 2011.
Ah, bah, bien sûr, dans l'imaginaire, là, ouais. t'es né en 2011. Mais il y a déjà une production quand même déjà assez forte. Mais en même temps, j'aimerais bien que tu nous parles déjà de ce premier roman, cette genèse, en fait, des îles du Santal, puisque ce troisième roman, La part du requin, en fait, n'est pas une suite... mais est un prolongement de ce premier roman. Et bien sûr, on peut lire ce roman sans avoir lu Les îles du Santal, mais quand même, ce premier est quand même à l'origine de celui-là.
Alors oui, Les îles du Santal, ça a été un hasard un peu miraculeux. C'est une rencontre, enfin, comme souvent, c'est le hasard qui dicte les choses et les vies. Donc là, en l'occurrence, c'est une rencontre avec un livre dans des circonstances tout à fait... étrange. Voilà, chez une amie, dans une vieille maison, une vieille bibliothèque, un vieux livre. C'était un livre sur les îles Marquises qui avait été offert ou acheté par le ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de la Troisième République. Enfin, voilà, et c'était un livre qui s'appelait « Lettres sur les îles Marquises ». Et ça avait été écrit par un missionnaire qui racontait tous les déboires qu'il avait... aux Marquises pour évangéliser les missionnaires et évangéliser les indigènes. Et il avait dessiné à la fin du bouquin une petite carte et sur laquelle il y avait écrit entre deux îles le nom d'un endroit qui s'appelait le canal du Bordelais. Et j'ai été très très surpris de l'existence de cet endroit, le canal du Bordelais aux Marquises en 1843. Et il a fallu beaucoup d'années pour que je comprenne pourquoi cet endroit s'appelait le canal du Bordelais. Et j'ai appris, donc bien des années plus tard, que c'était un bateau parti de Bordeaux qui avait fait le tour du monde au tout début du 19e et qui avait donné son nom à cet endroit, qui était allé aux Marquises pour troquer du bois de santal contre des fusils. Et il a participé, donc ce bateau qui s'appelait le Bordelais, il a participé au déboisement quasiment total du bois de santal aux Marquises. Et puis donc, il faisait partie des premiers bateaux commerciaux qui venaient faire du troc d'escale là-bas. Il a été suivi ensuite par les baleiniers tout au long du 19e. Donc voilà, c'était le début des contacts avec les insulaires. Donc mon premier roman, c'était, je me suis dit, quand j'ai trouvé ce livre, quand j'ai compris ce que c'était le canal du Bordelais, quand j'ai compris qu'il y avait eu un bateau parti de Bordeaux, je me suis dit, voilà, c'est un sujet... voilà, c'est un roman qui s'offre à moi. Il faut que je le prenne. C'est un bateau qui me demande de m'emporter. Et donc, j'ai créé des personnages. J'ai créé une histoire qui n'est pas l'histoire de ce bateau particulièrement. Je me suis appuyé sur cette histoire pour raconter la quête d'un personnage qui s'appelle Alban, qui est un jeune garçon en rupture amoureuse et qui... Qui va partir sur une espèce de quête, un peu fantasmée de sa mère, qui est partie bien des années auparavant pour l'Amérique. Alors voilà, c'est un peu cette quête qui ne le mènera pas en Amérique, mais qui va le mener aux Marquises, parce que il va pas prendre le bon bateau, parce que voilà, parce que les choses ne vont jamais comme on le pense. Et finalement, aux Marquises, il va déserter de son bateau parce qu'il va faire une rencontre. Comme bien souvent, il va rencontrer une femme. Et voilà. Donc c'est l'histoire de le périple de ce jeune garçon déserteur. Voilà.
Et donc aujourd'hui, donc 25 ans plus tard, donc en 1800, le début des îles du Sentinel commence en 1816, et donc là on se retrouve 25 ans plus tard, en 1842, et là donc ça fait à nouveau partie, ça fait partie intégrante, j'ai l'impression, de ta démarche d'auteur. Tu te bases sur des faits réels, des faits historiques, pour construire ta fiction. Et ouais. J'ai l'impression que tu as besoin. Et donc là, tu utilises deux faits historiques. Après, donc, le bateau de commerce, le Bordelais, tu utilises deux événements. il y a plein de place encore, là, devant. Deux événements aux Marquises, qui sont l'arrivée de l'escouade française, donc c'est-à-dire la marine militaire française, ouais. Et d'un baleinier.
Oui. Alors... ce qu'il faut savoir, néanmoins, ce qui est très, très, très important dans cette écriture, c'est que Les îles du Santal, c'est un roman totalement imaginaire. Enfin, je me suis basé sur l'histoire de ce bateau, mais c'est un roman que j'ai totalement imaginé, d'autant plus que je n'étais jamais allé aux Marquises. Donc c'est un roman qui est écrit complètement d'imagination, avec de la documentation. Mais c'est une projection. Alors que... Et puis bon, la chance extraordinaire que j'ai eue, c'est quand même que j'ai obtenu une résidence d'écriture grâce à la région Aquitaine, qui m'a permis de faire le voyage là-bas et d'aller découvrir ces lieux que je ne connaissais pas, bien que je les ai abondamment décrits, et ces gens dont je parlais et que je n'avais jamais rencontrés. Mmh. Donc ça a été un vrai choc esthétique, culturel, humain, puisque j'ai rencontré des gens qui sont très particuliers, très, très attachants, qui ont une histoire dramatique et qui s'en sont sortis.
On y reviendra. Oui, c'est le processus d'écriture. Mais... En fait, tu as écrit le premier vraiment en projection et finalement en découvrant les Marquises de manière imaginaire. Mmh. Ensuite,
Pour aller m'imprégner en fait, de la réalité de ce que sont ces îles, de ce que sont ces gens. Et... J'ai construit ce livre donc avant, pendant et après le voyage. Donc ce livre, c'est le projet que j'avais avant de partir, transformé par le voyage. Donc en cela, il est quand même assez différent du premier. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut le lire aussi sans avoir lu le premier, parce qu'il est assez singulier et puis parce qu'il y a beaucoup de rappels du premier. Alors évidemment, c'est toujours intéressant de lire les deux parce qu'il y a plein de... Il y a plein de liens, il y a plein de passerelles. Bon, c'est vraiment, c'est quand même une. Voilà, on retrouve les personnages. Mmh. Tu parlais d'Alban. Effectivement, 25 ans plus tard, on retrouve Alban.
On retrouve Alban, et donc il y a eu des enfants.
Alors Alban, voilà, il a déserté parce qu'il est tombé amoureux d'une femme, d'une Véhine, comme on dit là-bas. Il est tombé amoureux d'une femme qui a été un très très grand amour et. Au moment où arrive l'escadre française, donc avec beaucoup de bateaux, beaucoup de canons pour annexer cet archipel, pour en faire une terre française. Et puis au moment où arrive aussi le bateau de Melville, Herman Melville, qui est ce grand écrivain américain qui à l'époque était mousse sur un bateau baleinier, qui va lui aussi déserter, donc au même moment, enfin quelques jours plus tard, sur cette île. Alban, lui, qui a eu deux enfants dans l'intervalle avec cette Véhinée, une fille qui s'appelle Hina et un garçon qui s'appelle Hetai, qui sont donc des demi franco-marquisiens auxquels il a appris le français, auxquels il a parlé de son histoire. Et bien donc, au moment où arrivent ces bateaux, et bien, en fait, lui, il est en deuil. Enfin, tout le monde est en deuil, ses enfants comme lui, parce que sa femme a été emportée par une épidémie de tuberculose, comme beaucoup de marquisiens à l'époque. Et donc
c'est là que l'histoire...
L'histoire commence.
La part du requin commence.
L'histoire commence dans le deuil, parce que tout le monde cherche comment... Enfin, tout le monde essaie de se sortir de ce deuil, ou enfin, en tout cas, de le vivre. Et donc Alban, lui... Dans l'espèce de dépression qui suit cette disparition, en fait, il a la vision d'un requin. Il a l'impression de sombrer, il a l'impression de couler, et il a l'impression qu'un requin mange son cœur et que cette dévoration l'empêchera à tout jamais d'aimer de nouveau. Donc c'est l'amputation de l'amour, en fait, là, cette part du requin pour lui. Et quant à ses enfants, Alors ces enfants, eux, donc ils sont assez âgés, ils sont déjà plus de 20 ans. Et eux, ils sont... alors chacun à leur façon, ils essaient de faire ce deuil. Et chacun à leur façon, ils essaient de trouver leur place dans cette île. Chose qui est difficile pour eux parce qu'ils sont nourris des récits de leur père. Ils cherchent à être fidèles. Ils sont très liés en fait à l'histoire de l'île, à la magie de l'île que leur mère leur a transmise. Mais donc ils sont un peu partagés. Et quand ces bateaux français arrivent et qui arrivent pour rester, ils sont très attirés. Ils sont très attirés par le monde des Blancs qui symbolise le monde de leur père.
Et donc une des thématiques en fait de ce roman, c'est cette confrontation entre le monde des Blancs qui arrive et qui vient s'imposer et ce monde marquisien qui est là. Et tu as entendu aux marquises chroniques de la fin d'un monde. Ça parle aussi de, tu avais envie de parler de la disparition d'une société ou d'un monde et de la rencontre en fait avec un autre.
Oui, parce que cette rencontre entre ces équipages français et cette société marquisienne, c'est une confrontation très très brutale. Bien que ce soit au début, c'est quelque chose qui a un lien avec la fascination. C'est-à-dire que les équipages sont fascinés par la façon de vivre des marquisiens, qui est une façon de vivre qui exclut tout travail tel qu'on l'entend ici, puisque ce sont des îles très 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 généreuses. Et puis avec une organisation sociale et des mœurs qui sont extrêmement libres et qui les surprennent et qui les ravissent. Mais bon, c'est néanmoins aussi une société qui a sa propre violence, puisque ce n'est pas une société non plus égalitaire. C'est une société où il y a une classe taboue qui possède et puis une classe du peuple qui est plutôt au service. Et puis c'est une société qui a sa violence aussi parce que c'est une société qui est basée sur le mana. Le mana, c'est la force magique. Et la force magique, elle est contenue dans beaucoup de choses, dans les choses, dans les armes, dans la force des guerriers. Et la façon d'être des guerriers, c'est de maintenir un état de guerre permanent et de se nourrir de la force des ennemis vaincus. Donc c'est quelque chose qui a une basse intensité, mais qui participe en fait au processus de la, comment dire, des croyances. Donc c'est quelque chose de tout à fait aux antipodes de ce que peuvent des cultures occidentales, donc qui paraît d'une cruauté abominable, parce qu'effectivement il y a de l'anthropophagie et en même temps d'une poésie totale. Et de leur côté, les marquisiens, eux, sont fascinés par ce qu'apportent les Blancs, parce que les Blancs, ils apportent ce qu'eux ne possèdent pas et ne peuvent même pas fabriquer, puisque les Blancs arrivent avec du métal, le métal qui n'existe pas là-bas. Ils arrivent avec de l'alcool, ils arrivent avec des armes à feu, avec tout un tas d'objets qui sont les objets de la civilisation occidentale conquérante. Et les marquisiens ne peuvent absolument pas lutter, résister. Enfin, donc ils vont être happés en fait par.
Et donc dans ce roman, c'est aussi l'histoire de comment cette société est happée par le monde des Blancs. Et ce qu'il y a de très frappant en fait, c'est que tu ne portes aucun jugement. Ni sûr, parce que on sent que c'est écrit du point de vue des Iliens. On a l'impression en fait que c'est un marquisien ou que c'est quelqu'un qui vit dans l'île qui a écrit. Par rapport aux questions de cannibalisme ou de sacrifice humain, tu ne poses absolument aucun jugement. Il n'y a pas du tout du point de vue, on va dire, de l'occidental qui surplombe les indigènes. Mm. Tu voulais avoir cette démarche-là, de te mettre à hauteur des gens de l'île.
Oui, en fait, il me semble que que toutes les civilisations se valent. Toutes les civilisations humaines se valent. Elles ont toutes leurs valeurs, mais je pense pas profondément qu'on puisse faire de hiérarchie entre les façons d'être au monde. J'ai des amis dans la salle qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et je pense que le monde marquisien, la civilisation marquisienne, avec ses défauts et ses qualités, comme la nôtre, c'est une civilisation qui avait autant que les autres le droit de vivre. Et donc, moi, je suis pas... Voilà, Moi, j'avais envie, effectivement, dans ce livre, d'avoir le regard de l'autre, hein, le regard de l'insulaire, puisque les Marquisiens sont des gens qui lisent peu, qui écrivent peu. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites par des Marquisiens. Moi, j'ai la chance de savoir écrire. J'ai eu la chance d'aller là-bas. J'ai une sensibilité. Je pense que j'ai une capacité d'empathie qui est importante, qui fait que je peux assez facilement me mettre dans la peau de l'autre. Et voilà, je me suis servi de ça pour essayer autant que je le pouvais de me mettre dans la peau du Marquisien ou dans la peau du demi, ce qui est plus facile, pour regarder les blancs arriver. Et je me suis servi pour ça de pas mal de choses. Je me suis servi beaucoup du livre de Melville, du Taipi, du premier roman d'Herman Melville, Taipi, puisque donc, comme je disais tout à l'heure, Melville, jeune mousse, va déserter de son bateau à l'arrivée. C'est-à-dire, son bateau arrive quelques semaines ou quelques jours après l'escadre du Petit Thouars. Donc déjà, quand le bateau arrive, Melville voit les Français à l'œuvre.
Et ça, pardon, tu le sais quand tu as l'histoire ou quand tu écris l'histoire ou tu le découvres pendant? Parce que tu as une histoire particulière avec ce roman Taipi.
Oh, ça fait très très longtemps que je connais Taipi. Ça fait partie de mes livres fétiches, donc je connaissais l'histoire. Et justement, je me suis dit, j'avais d'ailleurs emmené aux Marquises le livre Taipi, je l'ai même photographié sur la plage où Melville a été libéré, la plage de la vallée. Je connaissais très bien cette histoire. Et donc, du coup, j'avais envie de... Comme Melville a écrit ce livre pour parler des indigènes avec un regard qui était assez nouveau pour son époque, un regard quand même critique sur la colonisation, un regard assez humaniste, assez caustique, assez plein d'humour. Enfin, c'est un livre très, 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 très intéressant. Et j'avais envie de faire le miroir de ce livre, de faire le regard en contre-champ. Je voulais que ce soit les indigènes qui regardent Melville, enfin, et qui regardent les Blancs. J'ai utilisé trois personnages du bouquin de Melville. Le narrateur, c'est-à-dire l'auteur lui-même, qui dans le bouquin s'appelle Tom, que les Marquésiens appellent Tomo. Et puis deux autres personnages, dont un très important, qui est l'indigène Tabou, qui va repérer sa présence dans la vallée où il est captif, hôte et captif à la fois, et qui va le faire libérer.
L'indigène Tabou?
Oui.
C'est quoi?
L'indigène Tabou, c'est l'indigène qui est d'une tribu, mais qui a créé des liens avec les chefs de toutes les vallées, des liens qui sont des liens en fait qui devient intouchable. Donc en fait, quand les tribus sont en guerre, lui n'est jamais inquiété. Il peut aller où il veut. En fait, donc il y a une... et donc du coup, c'est un colporteur de nouvelles, c'est un raconteur d'histoires. C'est quelqu'un qui mène une vie très agréable parce que justement, lui, il n'est pas soumis, il n'est pas dans les conflits, il est juste dans le plaisir. Voilà, donc ce personnage de Taipi qui s'appelle Mano est un personnage aussi pivot de la part du requin.
Oui, on parle de beaucoup de personnages. C'est très bien fait. Dans le roman, vous avez tous les personnages avec les tribus. Il y a également une carte, en fait, parce qu'on se balade beaucoup dans le roman. Sur la carte. Et justement, il y a une connaissance de l'île, une description de l'île très précise. Et ça, j'aimerais bien quel est le rôle, en fait, de la résidence d'écriture là-dedans, le fait d'y être allé. Parce que tu as déjà décrit, tu l'avais déjà décrit sur le premier en le voyant sur Google Earth. Et en fait, quand tu as découvert ces paysages et cette île, est-ce que tu avais l'impression de connaître déjà ou...
En fait, c'est mon rapport à la géographie que... dont je pourrais parler. Parce que, en fait, je dirais qu'il y a très très longtemps que, pour moi, une carte est importante. Parce que dès que j'ai su que les cartes existaient, je me suis demandé où j'étais. Et donc j'ai cherché à localiser où j'étais, et d'où je venais, et où j'étais allé. Et donc pour moi, les cartes, ça a été une grande découverte. Et aussi pour les îles du Pacifique, Pour moi, l'Atlas mondial, ça a été une révélation, parce que quand j'ai découvert les îles du Pacifique, je me suis dit, oh là là, ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un endroit qui me convient.
En regardant l'Atlas.
En regardant l'Atlas, oui, alors que j'étais très jeune. Et donc la géographie, pour moi, c'est très très important, parce que un lieu, c'est pas uniquement un cadre. Hein. C'est aussi c'est un personnage. C'est parce que le lieu, il exprime pour moi des tas de choses. Il exprime ceux qui ont vécu là et qui sont partis. Il exprime le manque. Il exprime le plaisir, le bonheur. Il exprime des tas de choses. Enfin, il exprime tout ce que voilà. Enfin, il exprime autre chose que ce que les personnages expriment. Et c'est un miroir et c'est un projecteur de beaucoup de choses. Donc, pour moi, la géographie, c'est essentiel pour écrire un livre, parce que j'ai besoin de savoir où je suis, où sont les personnages et où ils vont et comment ça va circuler. Donc, sur cette île, donc, effectivement, je n'y étais jamais allé. Et dans le premier bouquin, j'avais beaucoup de mal à me représenter le rapport d'échelle de quelqu'un sur ce territoire. Parce que c'est un territoire qui est assez petit. L'île de Nuku'iwa, la totalité de ce livre se passe dans la même île. Hein. C'est un huis clos, ça se passe dans une île qui fait une trentaine de kilomètres sur une douzaine, quinzaine. Mais c'est une île extrêmement escarpée, extrêmement montagneuse. Donc il est assez difficile d'y circuler. Donc pour passer d'une vallée à l'autre, il faut grimper jusqu'à des cols très élevés, des pentes très très raides. Passer des cols un peu acrobatiques pour redescendre dans la vallée voisine. Donc à l'époque des Marquisiens de la civilisation ancienne, là, les gens se baladaient à pied, mais ils étaient très très agiles et ils grimpaient par des petits chemins. Et bon, il y a une autre façon de circuler qui est beaucoup plus facile, c'est de circuler en pirogue, de passer d'une baie à l'autre en pirogue. Mais
toi, tu l'as fait comment en fait ?
Alors pour en revenir au début de la question, donc j'avais beaucoup de difficultés à me représenter le rapport d'échelle à l'endroit. Donc, j'ai fait avec, hein, j'ai essayé de me débrouiller. Mais quand j'y ai été, quand je m'y suis retrouvé, eh bien là, c'était très étrange, parce qu'il y a, certains endroits dans lesquels, pour les avoir beaucoup décrits, j'avais l'impression de les connaître bien. J'avais l'impression de rentrer quelque part un peu, je dirais pas chez moi, mais enfin, disons, dans un endroit que je connaissais très bien. Et puis, sur d'autres endroits, là, par contre, je découvrais la taille, la très grande taille de l'endroit, dans un endroit que j'aurais pu imaginer beaucoup plus petit.
Est-ce que ça a changé ton écriture, l'histoire ? Est-ce que ça a eu un impact, le fait de découvrir réellement la géographie du lieu ? Est-ce que ça a eu un impact sur l'écriture et...
L'impact, c'est surtout que ça a précisé mon écriture. C'est-à-dire que quand j'ai écrit pour la première fois, j'ai dû y mettre pas mal de flou. Le flou, c'est pas toujours un défaut. On peut lire des choses qui sont pas forcément d'une précision totale. Mais sur ce second-là, j'ai pu être beaucoup plus précis, parce que j'ai moi-même fait des marches. Voilà, je suis allé d'une baie à l'autre à pied dans cette île. J'ai pris le bateau pour aller d'une baie à l'autre. J'ai vu comment ça se passait pour passer l'endroit à l'autre. J'ai vu combien de temps il fallait, combien c'était difficile. Ça bouge beaucoup dans le livre. Hein. Les gens, ils se déplacent pas mal. Hein, mais... Voilà, j'aurais pas pu écrire ça si j'étais pas allé, parce que j'aurais pas pu. Ça aurait été compliqué.
Oui, parce que les gens ça bouge beaucoup, parce que tout au long du roman, on voit vivre cette société marquisienne avec les alliances, les guerres, enfin les relations entre les marquisiens eux-mêmes, qui sont pas un peuple uni, on va dire, ou un peuple. Homogène, où c'est pas des gens, il y a pas, les marquisiens sont pas, hein, voilà, des gens qui, on viennent plus d'une vallée ou d'une tribu plutôt que.
Oui. Aujourd'hui, les marquisiens sont beaucoup plus unis qu'ils ne l'étaient à l'époque, effectivement, puisque chaque vallée était un petit royaume avec son roi, ses prêtres, ses guerriers, ses petites sociétés. Enfin, donc, et quand les sociétés étaient quand les tribus étaient en guerre, les populations ne sortaient pas de leur vallée. Et donc il y avait une seule façon de sortir de la vallée, c'était quand il y avait de grandes fêtes collectives, parce que c'est une des spécificités de cette société de cette époque, c'est que quand il y avait de grands événements, comme par exemple dans une tribu l'avènement d'un nouveau Tawa, c'était le sorcier, celui qui correspond avec les esprits, eh bien il y avait, un tabou général sur les conflits, qui durait, ce qui pouvait durer 6 mois, pour préparer une très très grande fête. Et c'était donc la tribu qui recevait toutes les autres. Et donc là, c'était un événement monumental dont tout le monde se souvenait pendant des générations, parce que c'était quand même assez rare. Et donc là, tout le monde venait, toutes les tribus en guerre, c'était la paix. Les couples pouvaient se faire même de tribu et demie à tribu et demie. C'était le moment idéal justement pour que des couples intertribaux se fassent, pour créer des tabous justement. Parce que quand des tribus en guerre, quand il y a des mariages, eh bien les gens sont tabous, ils sont protégés. Donc effectivement, chaque vallée était un petit territoire. Il y avait des périodes de paix, il y avait des alliances, mais c'était des guerres de très faible intensité. C'était des guerres c'était des escarmouches, des bravades, des provocations. Il y avait des endroits où ça se passait. Ça se passait sur les crêtes, d'une vallée à l'autre. Ça se passait sur les hauts plateaux, où il y avait des rendez-vous. Ils commençaient la guerre le matin, et puis ils s'arrêtaient pour manger. Les femmes étaient là. Et elle les encourageait, c'était un peu comme à la corrida ou comme à un match. Hein. Les femmes encourageaient, elles apportaient la nourriture, l'eau aux participants. Et puis à la fin de la journée, tout le monde rentrait chez soi et puis on recommençait le lendemain. Mais c'était voilà. Et puis dès qu'il y avait un mort, voilà, c'était bon. Une tribu avait remporté la manche et voilà, voilà.
Et tout ça, c'est ce qui est extrêmement documenté, qui est aussi toujours dans le livre, que tu utilises en fait. Tu utilises toute cette connaissance-là pour en faire une œuvre de fiction. Et en fait, là, tes sources, en fait, ce sont les Marquisiens d'aujourd'hui. Ce sont qui sont tes sources pour raconter ça?
Alors mes sources, ce sont les gens qui ont écrit sur les Marquises, parce que il y a beaucoup de navigateurs, beaucoup de visiteurs qui ont écrit au 18e, au 19e, qui ont écrit sur les Marquises. Et donc j'ai beaucoup lu, évidemment. J'ai beaucoup de livres qui traitent de ça. Il a fallu que je digère tout ça avant d'y aller. Et puis sur place, j'ai appris. C'était le réel sur place. C'est-à-dire que tout ce que j'ai lu, c'est l'histoire. C'est ce que les témoins ont vu et ce qu'ils rapportent. Voilà. Mais quand je suis allé sur place, là, j'ai vu ce que c'est aujourd'hui, en quoi c'est différent et en quoi c'est semblable. Ce qui est semblable, c'est l'attachement des gens à leur terre, c'est cette espèce de magie qui va quand même toujours avec eux, même s'ils sont devenus tous catholiques. C'est le rapport aux morts. Voilà, le rapport aux disparus, il y a des tas de choses que j'ai...
Le rapport aux disparus, oui.
Oui, le rapport à ceux qui ne sont plus là, mais qui continuent à habiter avec eux. Enfin, voilà, ce rapport-là qui n'existe, voilà, qui est quelque chose de particulier. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu aucune source sur l'histoire, puisque le propre même des Marquisiens, c'est l'oubli. C'est pour ça que leur histoire m'a... C'est pour ça que moi, qui ne suis pas Marquisien... Qui ne suis pas insulaire, qui suis d'ici, qui est peu voyagé en plus. C'est pour ça que cette histoire m'a touché. Parce que l'oubli, c'est vraiment quelque chose qui est... la disparition et l'oubli, c'est vraiment des choses qui sont... comment dire, qui sont des choses que j'ai profondément ancrées en moi. Et c'est
dans mon histoire personnelle.
Dans mon histoire, voilà. C'est des choses que j'ai envie de traiter. Ce sont des choses auxquelles je suis extrêmement sensible. Et l'histoire de ces gens, eh bien, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui m'a été pas si difficile que ça à faire, parce que justement, j'avais l'impression de porter quelque chose qui ressemblait à ça. Donc,
c'est comme s'il y avait une histoire. Enfin,
comme si
histoire en fait résonne.
Oui, voilà, il y a un écho
en toi, de manière très intime.
Il y a un écho.
Et est-ce que le fait que ce soit très loin t'aide peut-être à le fictionnaliser et en parler sans parler de toi.
Oui, c'est enfin, oui, effectivement. Oui, t'as touché. Oui, c'est effectivement le fait que ça soit lointain, ça permet effectivement de faire des de faire des liens plus facilement.
Donc c'est comme si tu mettais quelque chose de toi, la part du requin, qui est très intime,
ouais.
mais qui est pas camouflé, mais en tout cas dissimulé sous les airs d'un roman
qui est transformé.
D'aventure.
Et... Ouais, qui est...
Parce qu'il y a beaucoup d'aventures et de péripéties. Hein. On n'en parle pas, on parle pas d'intrigue et de péripéties pour vous laisser le plaisir de vous découvrir. On ne va pas vous raconter ce qui se passe. Hein.
Non, mais effectivement, il y a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de... Voilà, c'est une histoire. C'est un peu la grande histoire de la fin de quelque chose qui se délite, contre lequel on ne peut rien. Malgré tout ce qu'on peut essayer de faire, ça échappe. Il y a un personnage, en particulier Alban, qui a conscience de cette disparition, qui a conscience du fait que tout se dégrade, que tout se délite. Et il a une espèce de position. Il a l'impression de savoir ce qu'il faudrait faire, et en même temps, il arrive à rien du tout. Il est tout à fait impuissant à aider les siens à résister à la pression des occupants. Donc c'est
une figure en fait, Alban, qui a priori donc notre héros. Notre jeune héros qui part en 1816 de Bordeaux sur son bateau et qui se retrouve là 25 ans plus tard un peu comme un anti-héros ou comme un témoin impuissant un peu de cette fin de ce monde et de cet envahissement, cette chronique de fin du monde en tout cas et de la supériorité du monde blanc.
Disons de la prééminence. Mais ce que j'ai voulu exprimer, c'est comment ça s'articule entre cette société immobile, cette société de la répétition, cette société qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de magie, mais qui est une société dans laquelle, quand on est européen, on peut peut-être assez facilement tourner en rond parce que c'est justement il n'y a pas une variété infinie de choses à vivre, à voir, à faire. Et les enfants d'Alban, qui sont donc les deux seuls personnages de l'île à parler français, à avoir conscience de ce que c'est que l'ailleurs, ce que c'est que l'Europe, comment on vit là-bas. Parce que
même si on rappelle, ils n'y sont jamais allés.
Ils sont nés sur l'île.
Leur père leur a appris la langue française, mais ils sont brésiliens.
Ils comprennent le français, ils parlent plus ou moins en fonction l'un ou l'autre. Ils n'ont pas tout à fait la même approche de ça. Mais tous les deux, ils sont un peu habités aussi par les histoires du père. Et ils ont un petit peu de mal, en réalité, du coup, à trouver leur place dans cette société parce que c'est pas si simple pour eux. Mm-hmm. C'est pas si simple parce que pour le marquisien qui vit dans son monde magique, effectivement, c'est quelque chose de cohérent, c'est quelque chose de global. Celui qui est divisé, comme eux, c'est-à-dire qu'il y a une double culture, eh bien, il a accès à une autre façon de penser, une autre façon de regarder les choses, un regard critique. Et du coup, ça fragilise la partie qui est une partie immuable et qui, logiquement, ne devrait pas souffrir de contestation ou de remise en cause. Mm-hmm. Parce que dans la société traditionnelle, le tabou régit tout. Le tawa et les chefs ont la vérité. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-pouvoir. Or, dans une éducation européenne, et même celle que dispense Alban à ses enfants... c'est pas pareil, c'est pas tout à fait comme ça. Et combien même lui, il a voulu devenir invisible dans cette île, il a voulu devenir l'autre, devenir comme les autres. D'ailleurs, personne n'a le droit de parler de son existence, parce qu'il veut devenir invisible au regard des Blancs. Mais
il veut disparaître.
Il veut disparaître, quelque part. Enfin, il veut, oui. Mais il ne parvient pas à devenir marquisien. Il ne parvient pas parce qu'il n'a pas cette forme d'esprit. Et involontairement, il le transmet à ses enfants. Et donc, ses enfants ont aussi du mal à trouver leur place. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi attirés par le monde des Blancs. Bien que Ina, par exemple, la fille, essaye plutôt de fuir ce monde, mais elle va quand même être un peu rattrapée par lui. Et le fils, lui, il est beaucoup plus franchement attiré. Mais bon, c'est, pour les deux, c'est quand même c'est problématique. La division fait que la place est difficile à trouver.
Et qui est une problématique, en fait, de ce que tu veux traiter un peu dans, finalement, dans tous tes livres, finalement, qui est la, quelle est ma place, où est ma place, et trouver sa place un peu dans une société, dans une famille, dans une...
C'est une question transversale, ouais, effectivement.
Qui est donc aussi quelque chose de très intime.
Ouais.
Qui traverse en fait tout ce parcours en fait, je vais dire. Parce que ça fait penser à un parcours même plus qu'une œuvre, enfin cohérente finalement, assez cohérente entre sans que ce soit une suite, mais qui se répond sur donc cette question de la place, en fait, trouver sa place. Moi, je voulais revenir un peu sur Melville en fait, sur la mise en abîme littéraire où Melville arrive réellement dans l'île, le raconte dans un roman, donc il romance son histoire, même si ça part d'éléments, et toi, tu décides, dans ton roman, de prendre des scènes qui sont écrites par Melville et de changer juste le point de vue. Donc c'est où tu fais en fait aussi tout un travail sur, à chaque fois, la réalité et la fiction, et comment on tricote, en fait, comment on fabrique de la fiction à partir du réel. Et j'ai l'impression, à partir du moment où tu pars aussi d'éléments réels et tu t'amuses constamment, tu aimes ta... Enfin, je dis amuser.
Je m'amuse beaucoup. Hein. Je me suis beaucoup amusé.
Mais j'ai l'impression que ça fait partie aussi de ta démarche, de ton processus d'écriture, d'aller prendre des éléments réels des éléments de littérature pour aller t'amuser à tricoter ton propre imaginaire sur un imaginaire, une réalité qui existe déjà.
Oui. Oui, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir m'amuser à faire ça, c'est-à-dire de rencontrer Melville à 200 ans d'écart, voilà, lui qui a mis pied sur cette île au moment où tout était encore possible, où les tribus étaient encore nombreuses, où la civilisation était encore... était encore florissante, enfin, où il y avait des tas de choses à voir, à vivre. Les Marquésiens d'aujourd'hui, d'ailleurs, rêveraient de rencontrer leurs ancêtres, de pouvoir parler avec eux, ne serait-ce que quelques instants, pour que leurs ancêtres leur expliquent comment c'était la vie à cette époque, parce qu'eux, ils ne le savent plus. Donc moi, j'ai... Voilà, avec Melville, donc j'ai eu un regard sur un épisode de vie dans une tribu tout à fait exceptionnel et puis très amusant, parce qu'il a une façon de mettre en scène les choses très amusante. Et donc je me suis dit, en fait, c'est un petit peu le hasard qui a amené ça, parce que à l'origine mon projet, c'était pas forcément d'intégrer Melville à l'histoire. Mon projet, c'était de faire, retrouver mes personnages, les personnages des îles du Santal, les retrouver 25 ans plus tard, au moment où l'escadre française vient prendre possession des Marquises, et puis voir comment tout ça, s'organisait, et comment les enfants, comment se passait cette prise de pouvoir, comment se passait ce conflit, comment les personnages qui étaient un peu partagés allaient pouvoir trouver leur place et réagir par rapport à ça, se positionner. Mais il se trouve que Melville est là. Melville déserte. Il déserte dans l'île. Donc ça veut dire que quand mon histoire est en train de se dérouler, il est là. Donc puisqu'il est là, pourquoi pas le rencontrer ? C'était possible. Ces personnages sont là. En plus, il a un personnage très intéressant. Mano, c'est un personnage très intéressant. Donc je me suis dit... ce serait vraiment drôle que je fasse revivre ces personnages et que je rencontre Melville. Et donc je me suis même amusé donc à créer une rencontre entre le personnage, le narrateur de l'histoire de Taipi, qui s'appelle Tom, que les Marquésiens appellent Tomo, qui accompagne son capitaine dans la vallée de Hakaui, là où vit Alban. Et le capitaine est parti à la chasse aux coqs sauvages. Alors que ces coqs sont tabous dans cette vallée, donc logiquement, personne n'a le droit de les tuer. Sauf que...
Tabou, ça veut dire protéger.
Ça veut dire interdit.
On ne peut pas les toucher.
Ça veut dire c'est interdit, c'est sacré, on peut pas... Voilà, c'est interdit. Les coqs sont tabous. Mais le capitaine américain contre une certaine quantité de bouteilles de rhum, eh ben, il a le droit, finalement, on lève le tabou pour lui. Donc lui, il va aller tirer sur... il va aller faire un carnage dans les coques sauvages de la vallée de Wakaoui, où vit Alban. Et Alban est témoin de ça, et donc va à la rencontre, va voir ce qui se passe, à la rencontre du capitaine, et avec le capitaine, il y a ce matelot, ce grand matelot un peu nonchalant, qui, comme le raconte Melville dans son bouquin, qui est en train de mâchonner une racine de canne à sucre. Et ben, ben voilà, et ben c'est le moment. Voilà, je peux les faire se rencontrer, je peux les faire parler. Et comme voilà, quand il déserte, il raconte comment, du haut d'une montagne, il voit les gens en bas dans les cases qui se rendent compte qu'il y a des gens qui se sont enfuis des bateaux. Et ben, effectivement, moi, dans le contre-champ, je vais pouvoir avoir des personnages, voilà, le fils et la fille, qui vont voir les déserteurs. Voilà. Dans mon histoire, Mano, donc ce fameux marquisien tabou qui se balade de vallée en vallée, qui a pour raconter des histoires, eh bien, c'est le fiancé de Hina, de la fille aînée d'Alban. Donc voilà, il est intégré à la famille, c'est un personnage charnière. Et c'est lui qui va parler de Melville, donc de ce fameux Tomo qui est retenu contre son gré dans une tribu. Et qui va le dire et Alban va entendre. Enfin voilà. Donc je peux recréer à travers l'histoire de Melville, qui est une histoire romancée, parce qu'en fait c'est pas tout à fait ce qu'il a vécu. C'est en grande partie ce qu'il a vécu, mais il s'est inspiré aussi de d'autres écrits d'Américains qui avaient séjourné aux Marquises, donc pour construire son roman. Donc il a créé un personnage qui est lui-même. Il a créé d'autres personnages. Donc, pourquoi pas m'amuser avec ces personnages et faire du contre-champ et intégrer ces personnages-là aux miens et faire une histoire qui fait effet de miroir à la sienne. Et voilà.
Mais oui.
C'est du jeu littéraire. Et puis au-delà de ça, c'est une façon de montrer la complexité des rapports. Voilà, les rapports d'empathie, les rapports de jalousie, les rapports d'envie.
Et alors, par rapport à ça, je reviens sur l'histoire de le fait d'y être allé, de la résidence des agriculteurs sur place. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'histoire? Parce que quand tu es parti, avant de partir là-bas, tu avais déjà le synopsis, donc le squelette, en tête de cette histoire-là. Et est-ce que le fait d'aller là-bas et en rencontrant les Marquisiens, ici et maintenant, dans les relations avec ce que les Marquisiens sont aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu as pu te servir de ça, on va dire, pour inventer des relations entre les Blancs et les Marquisiens d'il y a 150 ans?
Alors oui, le voyage, de toute façon, il a été absolument essentiel. Il faut bien faire la distinction entre ce roman, qui est un roman qui se passe donc en 1842-45, donc au milieu 19e, donc dans une époque très très différente d'aujourd'hui, et aujourd'hui, est-ce que c'est les Marquises aujourd'hui? À l'époque, les Marquises, les Marquises avaient déjà perdu un tiers de leur population. Ils étaient 100 000 au début du... Enfin, fin 18e, au moment des premiers contacts, ils étaient 100 000. Ils avaient déjà perdu... voilà, ils avaient déjà perdu 30 000 personnes des maladies, de l'alcoolisme, de tout ce qu'avait déjà commencé à porter les...
En 42,
là. Ils avaient déjà perdu du monde. Mais enfin, bon, il y avait encore de quoi faire. Début 20e, il ne restait plus que 2000 personnes, quand même, hein, sur 100 000. Hein. Donc c'est avec 98% des gens ont disparu. Donc on imagine le cataclysme. Tuberculose, grippe, variole, enfin tout, quoi. Tous ceux contre quoi ils n'étaient pas immunisés, mais enfin bon, ils n'ont pas été les seuls, hein, les Indiens d'Amérique, du Nord, du Sud, enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup accompagné les colonisations. Donc 2000 personnes sur 100 000, ça veut dire que c'est une très très grande perte de mémoire. Les Marquisiens, à l'époque, ils avaient 70 danses. Ils dansaient sur plein de choses. Chaque événement était dansé. Et puis dans chaque tribu, les danses étaient un peu différentes. Chaque île avait des danses un peu différentes. Les 70 danses, ils s'en rappellent de 7 aujourd'hui. Donc ils en ont perdu.
Ça, c'est les missionnaires, hein, c'est ça qui ont.
Alors oui.
Qui ont fait...
Alors c'est pas que les missionnaires, parce que les missionnaires, ils ont eu un impact négatif, mais pas que. Ils ont aussi eu un impact positif après. Mais oui, enfin, la société s'est effondrée devant la pression parce qu'elle était pas, elle pouvait pas lutter. Donc et puis la société s'effondrant, voilà, toute la culture s'est effondrée, toute la mémoire et toute la démographie, parce qu'effectivement, quand les Français ont imposé leur protectorat, puis ensuite leur annexion, donc ils ont commencé par mater les rébellions. Donc là, je parle aussi de la dernière rébellion du dernier grand chef de guerre de Nukuiva, là, qui s'appelait Pakoko. Donc une fois que cette rébellion-là a été matée, donc il n'y avait plus de résistance à partir de ce moment-là. Donc les Français se sont appropriés les terres. Les missionnaires ont pu arriver, donc ça a été l'ordre colonial, l'ordre missionnaire. L'ordre missionnaire, ça a été la conversion au christianisme. Conversion au christianisme, ça veut dire que tout ce qui faisait le monde tel qu'il était organisé, enfin toute la cohérence de ce monde, en fait, elle disparaît. Et les missionnaires, ils y sont pas allés par quatre chemins, puisque pour eux, c'était un peuple cannibale, c'était le diable, hein, tout ça a été diabolique, il fallait tout éradiquer. Donc l'interdit a été total. C'est-à-dire, donc progressivement, assez rapidement, les gens n'ont plus le droit de se manger les uns les autres, mais ils n'ont plus le droit non plus de danser, parce que les danses étaient obscènes, elles étaient violentes, etc. Ils n'ont plus le droit de se tatouer, plus le droit de chanter. Et puis, il y avait une liberté sexuelle très importante. Bon, bien sûr, ça a été interdit. Ils ont dû s'habiller, hein, des pieds à la tête, plus être nus comme ils étaient. Donc, perdant tout ce qui faisait qu'ils étaient ce qu'ils étaient, ces gens, en fait, ont perdu le goût à la vie. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont aussi peu résisté à toutes ces épidémies. C'est pour ça qu'ils sont passés aussi près que ça de la disparition, parce que plus grand-chose ne leur donnait envie de faire quoi que ce soit. Et il a fallu attendre déjà le début du XXe siècle, donc les années 20, pour qu'un médecin allant là-bas se rende compte de la catastrophe, déjà de la catastrophe sanitaire, et puis essaie d'enrayer la dépopulation, chose qu'il a réussi à faire. Donc à partir de 1920, la population a recommencé un petit peu à croître. Et puis ensuite, il a fallu attendre les années 70, un peu, voilà, c'est un peu l'après 68, hein, qui même là-bas a eu un écho, parce que c'était un peu le réveil identitaire un peu globaux, hein, un peu partout sur la Terre. Il y avait les mouvements indiens, mais aussi là-bas, il y avait aussi le mouvement marquisien. C'est-à-dire que il y avait un groupe d'instituteurs qui se sont dit « c'est pas possible qu'on sache plus rien ». Parce qu'en fait, ouais, ils ne pouvaient plus parler marquisien non plus. Hein. Donc il fallait qu'ils parlent français. L'école, c'était l'école pour apprendre le français. Donc en fait, ils étaient devenus des espèces de citoyens français exotiques, mais qui avaient quand même perdu une grosse partie de leur identité. Donc voilà, dans les années 70, un petit groupe d'instituts s'est dit c'est pas possible, on est en train de tout oublier, on est marquisien mais on sait plus rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui même, quand on parle avec des gens, même des gens qui s'intéressent à l'histoire, en fait, il n'y a pas grand-chose. Enfin, ils savent ce qu'ils ont lu dans les livres, mais la transmission orale, il reste peu de choses. Donc, ces gens-là, ce petit groupe-là, avec l'appui de l'évêque de l'époque, parce qu'il y avait un évêque breton, donc qui était sensible à la question de l'identité, et l'évêque breton leur a dit, grosso modo, il leur a dit, je vous ai compris. Récupérez votre culture, je vous soutiens, vous avez ma bénédiction. Les missionnaires qui avaient été les fossoyeurs de l'identité marquisienne ont été, par la suite, ceux qui ont aidé à la résurrection. Ah ouais. Donc, en tout cas, cet évêque, puis voilà, on va dire le clergé un peu plus éclairé, donc de la fin du XXe siècle. Quoi. Et donc, grâce à ça, ces marquisiens qui étaient tous devenus de fervents catholiques, donc qui avaient complètement éradiquer toutes leurs anciennes croyances qui leur font horreur, enfin qui leur faisaient horreur, parce qu'on leur avait dit, bon, effectivement. Ils se sont mis, donc ils ont recommencé timidement à danser. Mais du coup, comme ça a été tellement diabolisé, cette culture-là, que c'était très difficile, même pour les marquisiens, même pour les anciens, ceux qui avaient encore de la mémoire, ceux qui savaient des choses, de le transmettre. Parce qu'on leur avait dit qu'il ne fallait pas. Donc, quand les jeunes sont allés les voir en leur disant « il faudrait que tu m'apprennes les pas de danse, il faudrait que tu m'apprennes cette chanson, etc. » Mais les vieux, ils ne voulaient pas, parce que c'était fini. Il fallait oublier tout ça. C'était la sauvagerie, c'était les temps sanguinaires, etc. Donc, il a fallu toute la persuasion d'un monsieur très, très important là-bas, qui a été un des artisans principaux de ça, qui s'appelle Lucien Kimitété, qui a été le maire de Nuku'iwa et qui a été un personnage politique porteur d'un projet justement de récupération culturelle. Et donc ils ont sur cette dynamique là, cette dynamique de se retrouver, ils ont entrepris un travail colossal dans toutes les vallées, dans toutes les îles, d'aller chercher auprès des vieux tous les savoirs qui étaient en train d'être oubliés, tout ce qui partait, etc. Ils ont rattrapé un peu comme ça tout ce qu'ils pouvaient. Et puis, à partir de ça, dans les écoles, ils se sont mis à réapprendre le marquisien, ils se sont mis à réapprendre les danses, à transmettre aux enfants, etc. Et c'est un très, très gros chantier. Et c'est un très gros chantier qui, aujourd'hui, est quand même en passe d'être gagné, parce que voilà, les enfants reparlent marquisien, enfin bon. Et puis surtout, ils ont retrouvé la fierté d'être eux-mêmes. Mmh. Et c'est quelque chose qu'ils avaient perdu. Ils ont retrouvé la fierté de leur culture, la fierté d'être marquisien, la fierté de parler de marquisien, la fierté de se tatouer, la fierté de danser, parce que la grande trouvaille donc de ce maire de Nuku'iwa, donc ça a été de créer un festival de culture, parce que dans ces îles isolées, en réalité, les ressources, c'est juste des ressources de subsistance. Il y a rien, il y a pas de richesse naturelle particulière. Leur richesse, c'est cette culture qui était disparue. Et cette culture qu'ils ont retrouvée, recultivée et réinventée, parce que voilà, ils ont retrouvé tout un tas de manières de la revivre. Et ben ça, c'est devenu un festival de culture marquisienne. Et ce festival, il s'est devenu un rendez-vous culturel très important dans le Pacifique. C'est-à-dire qu'ils ont tellement travaillé sur chaque île, sur leur culture, refaire des pirogues en bois, refaire des sculptures de l'artisanat dans le bois, dans la pierre, dans l'os, retravailler le tatouage, retourner dans tous les musées du monde où les navigateurs avaient dessiné des gens tatoués pour retrouver tous les motifs qui avaient été oubliés, retrouver le sens des motifs, recomposer des... Voilà, refaire des... C'est assez admirable ce qui a été fait. Ce travail de récupération est vraiment admirable. Enfin, moi, ça m'a
c'est bien que même il y a
énormément
des...
ému
et touché.
Voilà.
Et c'est bien qu'il y a, il y a des blancs qui n'ont rien à voir avec les marquises, qui écrivent des romans où on a l'impression que c'est un marquisien qui l'a appelé en respectant les cultures sans jugement.
C'est pour ça que je veux dire que, allant là-bas, j'ai compris le fossé à la fois qui sépare ce qu'étaient les marquisiens de ce qu'ils sont aujourd'hui, mais en même temps, les passerelles qui les unissent. Mmh. Tout ce qui font que, aussi quelque part, les marquisiens d'aujourd'hui ont retrouvé les liens avec leurs ancêtres. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui m'a donné en fait l'énergie pour faire que ce livre soit aussi un livre actuel. Que ce ne soit pas uniquement l'histoire de la confrontation au 19e. C'est aussi comment on meurt et comment on renaît. Et aux marquises, c'est un peu ça. On meurt, on renaît. On mange l'autre guerrier. Eh ben, il renaît en soi. Sa force, elle se transmet. C'est une chaîne.
Et du coup, dans cette chaîne, est-ce que tu as envie d'aller présenter le livre là-bas? Il en est question. Est-ce qu'il est déjà diffusé là-bas? Enfin, on peut le lire là-bas?
Le bouquin est diffusé. Il est diffusé... En ce moment, il y a un distributeur, des gens que j'ai rencontrés là-bas, qui le distribue à Tahiti et aux marquises. Il y a effectivement un festival, le Matava'a, le festival des marquises, qui a lieu au mois de décembre dans une autre île, à Iwawa. Je pense pas que j'irai. Ça coûte très très cher. Mais par contre, bien sûr que j'adorerais retourner là-bas pour présenter ce bouquin, parler de ce bouquin aux gens. Et il n'est pas inconcevable que ça se produise. Mais, Merci.